10h-11h sur RCM. Et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Et bonjour, bienvenue sur RCN pour ce nouveau numéro de l'émission Et puis c'est tout, l'émission qui chaque mois parle du, ou plutôt des épilepsies. Et pour m'accompagner, je suis très heureux de retrouver Audrey. Bonjour Audrey.
Bonjour Thomas.
Ainsi que Céline.
Salut Thomas.
Vous travaillez toutes les deux à alors, le PHR, le RHR, je vais y arriver. Un jour j'y arriverai, hein, promis.
Pas de soucis. Les acronymes, c'est
Acronymes, c'était, il y en a trop partout, tout le temps. Le RHR, on rappelle ce que c'est pour les auditeurs qui découvrent cette émission.
Oui, c'est l'équipe relais handicap rare, donc ERHR, c'est ça que ça veut dire, Nord-Est.
Très bien.
Et on anime la communauté de pratique épilepsie et handicap Nord-Est.
Voilà, on est très heureux de vous avoir chaque mois à nos côtés pour présenter cette émission. Et alors aujourd'hui, la thématique qu'on va traiter pendant une heure, c'est la thématique du travail pour les personnes qui souffrent d'épilepsie. Pour nous accompagner, et j'en suis très heureux, nous accueillons le docteur Stéphanie Klein-Logel. Vous êtes praticien hospitalier au service pathologie professionnelle des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Bonjour.
Bonjour Thomas.
Bienvenue parmi nous. Vous êtes au téléphone donc depuis Strasbourg et vous allez nous accompagner de votre regard professionnel sur ce sujet et cette thématique. Également à nos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Marie. Je dis Marie, est-ce que je donne votre nom avec ?
Non, ça va.
Sinon, vous m'auriez aidé pour le dire.
Non, c'est pour ça que ça va, Marie, tout ça.
Marie, vous êtes vous salariée chez Habitat et Humanisme Lorraine et vous souffrez d'épilepsie.
Oui. C'est ça.
Et tout à l'heure, vous nous raconterez votre parcours professionnel, comment vous êtes arrivé à trouver ce travail, parce qu'on verra que c'est parfois difficile de trouver un emploi quand on souffre de troubles d'épilepsie. Et vous nous raconterez votre parcours et votre vie aujourd'hui au sein de l'entreprise.
D'accord.
Avec plaisir. Et à vos côtés également, Ségolène. Bonjour Ségolène.
Bonjour Thomas.
Nous, Ségolène, on a le plaisir de se connaître un petit peu plus. Vous-même, vous souffrez, Ségolène, de troubles de l'épilepsie. Et vous êtes bénévole en milieu associatif et notamment chez nous.
C'est cela. Alors, je suis bénévole à RCN.
Ça fait drôle parce que dans la vraie vie, on se tutoie. On va peut-être se tutoyer finalement. Ça te va, Ségolène?
Oui. Ce sera
plus facile. Ségolène, tu nous raconteras justement, toi, hein, la difficulté que ça peut être parfois, selon la forme d'épilepsie que toi, avec laquelle tu vis, de trouver un emploi et combien, effectivement, peut-être le milieu associatif est aussi un bon moyen d'insertion.
Oui. Meilleur que le milieu professionnel normal, en effet.
Eh bien, on en parlera avec toi dans quelques instants.
D'accord.
Vous le savez, chaque mois, quand on démarre cette émission, on commence par aller poser des questions aux gens dans la rue sur la thématique choisie. Audrey, Céline, vous êtes donc allées rencontrer nos amis nancéens et vous leur avez posé deux questions. La première.
Alors, la première était, quel métier serait interdit d'après vous ? Quel métier serait interdit aux personnes épileptiques ?
Eh bien, on écoute ça maintenant.
Allez.
Certainement, il y a des postes inaccessibles pour tout le monde. Voilà, des situations pas en tout cas favorables à adapter.
Oui, la conduite et puis peut-être des choses qui engagent une certaine sécurité pour d'autres.
Il faut quand même de la sécurité pour ces personnes-là. S'il y a des machines, des trucs comme ça.
Quelque chose qui va provoquer les crises, par exemple. Trop de stress.
J'aurais pensé à des postes à risque comme ça. Quelqu'un qui travaille sur une grue ou quelqu'un qui est sur des chantiers, des échafaudages, des choses comme ça. Ça me semble plus... Voilà, c'est évident.
Si c'est une personne qui fait des crises régulièrement, c'est compliqué, par exemple, d'être en contact avec des adhérents. Dans mon cas à moi, par exemple. Voilà, après, si c'est, par exemple, aussi une entreprise manuelle, par exemple, voilà, ça peut aussi être dangereux. S'il fait une crise parce qu'il est en train de faire quelque chose, voilà, qui peut provoquer un accident pour lui ou pour les autres, il faudra forcément mettre un poste adapté pour cette personne-là.
On entend parler de postes adaptés, de crises régulières, ce qui veut dire aussi qu'on le différencie de ceux qui ont des crises peut-être moins régulières ou différentes. Ce sera aussi peut-être l'occasion de redire un mot quand même hein, sur l'épilepsie ou les épilepsies, justement peut-être pour rappeler hein, qu'il n'y a pas une forme d'épilepsie, mais diverses formes d'épilepsie. Je vais vous donner la parole à vous qui êtes autour de la table et à vous docteur. Est-ce que vous avez peut-être des réactions par rapport à ce qu'on a déjà entendu sur ce micro-trottoir, docteur Klein-Logel ?
Oui, tout à fait. Je pense que La notion qui vient en premier, en fait, c'est les postes à risque pour la personne elle-même, mais aussi pour les autres. On oublie ici, enfin, personne ne l'a cité, les risques, en fait, pour la personne elle-même de déstabiliser sa maladie. Par exemple, des travails stressants ou des horaires inadaptés, comme le travail de nuit. Et j'ai été, alors, pas surprise, parce que c'est assez régulier, mais de cette personne qui parle de contact avec des adhérents, donc je pense que c'est un poste en contact avec le public. Et ça, pour moi, ce sont des freins sociaux parce que c'est en rapport avec l'image de l'entreprise. Ouais. Il n'y a aucun risque ni pour le public ni pour la personne à occuper des postes de type poste d'accueil. Et malheureusement, c'est souvent un frein à, pour certaines personnes qui pourraient occuper ces postes-là sans risque et qui, malheureusement, du fait de l'image que ça donne à l'entreprise, ne peuvent pas y accéder.
On parle d'image d'entreprise, peut-être aussi parfois de méconnaissance du fait que, justement, les crises d'épilepsie sont différentes et qu'il y a aussi des personnes qui ont des crises quasiment, transparentes.
Oui, tout à fait. C'est surtout des peurs, hein, comme on l'évoque souvent, des peurs de la population générale par rapport à ces crises.
Marie, vous aviez quelque chose à redire par rapport à ce que vous avez entendu des gens dans la rue à l'instant ?
Bah, comme on disait, moi je suis, j'ai un poste d'accueil. Donc,
voilà, vous êtes le bon exemple.
L'image de l'entreprise, c'est moi qui l'a...
Qui l'avait, voilà. Et qui l'a détenait, oui.
Et donc, il est déjà arrivé, par exemple, parce que c'est un poste d'accueil physique et téléphonique, et il est arrivé une fois que je fasse une crise pendant que j'étais au téléphone. Alors, ça a été un peu complexe, mais bon, ça, j'ai réussi quand même à
tenir le poste. Et puis c'est arrivé qu'une fois.
C'est arrivé qu'une fois pendant que j'étais au téléphone. Mais sinon, depuis que je suis dans cette association, puisque c'est une association, j'ai fait plusieurs crises. Mais ça s'est bien passé puisque mes collègues ont été prévenus assez vite. Assez tôt depuis que j'ai été embauchée, que j'étais épileptique.
Et on reparlera d'ailleurs de ça. Je pense que c'est un point qui est très important, c'est comment on accompagne aussi les personnes qui souffrent d'épilepsie dans l'entreprise ou dans le milieu associatif également. Là, vous mettez déjà le doigt sur, je pense, quelque chose qui sera, dont on reparlera longuement dans l'émission. D'autres réactions par rapport à ce micro-trottoir, Ségolène, Audrey, Céline ? Non ? On passe à la suite alors. Vous avez le droit. Ouais, Céline, je voulais dire quelque chose.
Non, on entend aussi la question de l'adaptation. Peut-être,
c'est vrai.
Tu l'as dit tout à l'heure, Thomas, de pouvoir mesurer et dire peut-être son épilepsie, les conséquences qu'elle peut avoir. Et du coup, de pouvoir adapter les postes, adapter l'entourage, adapter l'environnement. Ça me semble important et à noter. Et
on verra d'ailleurs tout à l'heure sans doute s'il y a des postes qui sont vraiment interdits aux personnes souffrant d'épilepsie ou des postes qui sont peut-être déconseillés ou des adaptations à apporter. Ça fera partie des sujets que nous traiterons dans cette émission. Alors la deuxième question que vous êtes allé poser aux gens dans la rue, après leur avoir demandé si quand on souffre d'épilepsie, on peut travailler. L'autre question, c'était
C'était de leur demander s'ils étaient employeurs, est-ce qu'ils embaucheraient une personne qui leur déclarait être épileptique ?
Oui, étant moi-même porteur d'un handicap, je considère que ce serait un devoir et que les personnes porteuses d'un handicap ou d'une maladie chronique ont beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Déjà pour des gens, entre guillemets, c'est très compliqué. Alors mes craintes seraient que la personne ne soit pas bien suivie au niveau de sa pathologie et qu'elle ait en fait des crises vraiment lourdes et aussi que l'entourage professionnel, alors ses collègues éventuellement, soit formé à quoi faire quand ça arrive.
Si elle a un traitement, il n'y a pas de problème.
Ah oui, moi je suis pour l'inclusion. Ouais. Oui, oui. Ça dépend du degré du handicap et puis des séquelles, mais... Je pense qu'il y a moyen d'adapter un poste.
Si la maladie est maîtrisée, soignée, pourquoi pas ? Je pense que c'est peut-être des personnes en maladie reconnue.
Souvent, oui.
Voilà, donc je pense qu'il faudrait prévoir ce qui est nécessaire à sa possibilité de travailler.
D'être formée, de pouvoir former les gens qui m'entourent. Je suis CPE, j'ai des élèves épileptiques, j'ai été obligée de me former pour pouvoir les accueillir, enfin en tout cas pour pouvoir intervenir si besoin est. Ouais. Donc oui, je pense qu'il faut pouvoir le faire.
Oui, alors après ça dépend du degré et ça dépend de sa situation. Comme je ne suis pas chef d'entreprise, après bien sûr qu'il faudra probablement mettre des postes adaptés.
Bien sûr, pour ma part je suis entrepreneur également justement, donc j'embauche quelqu'un qui a aussi ses petits soucis personnels ou de santé, donc je vois pas pourquoi en fait ça changerait.
Oui, pourquoi je le ferais pas ? On est tous pareils, et puis l'épilepsie ça se règle, Je pense qu'il y a des médicaments qui font en sorte que quelqu'un puisse travailler. Il faudrait voir les causes de l'épilepsie. Quelles causes font que la personne fait une crise? Et puis, c'est en fonction de ça.
Bon, globalement, hein, on a l'impression que les gens sont plutôt ouverts, mais il y a quand même, on entend deux, trois petites choses. On entend, ça dépend du degré, ça dépend du traitement, du suivi, et aussi, on parle quand même beaucoup de la formation et de l'adaptation, et de l'adaptabilité. Docteur Klein-Vogel, vous en pensez quoi?
Ben, j'en pense plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que la majorité des personnes sont tout à fait favorables, et c'est bien, mais la réalité ne nous montre pas la même tolérance vis-à-vis du handicap. C'est vrai qu'il y a cette notion de sensibilité au handicap qui est importante et qui facilite en général l'intégration. J'ai le souvenir d'un jeune épileptique de 15 ans qui a pu entrer en apprentissage dans une entreprise avec vraiment un poste extrêmement bien adapté, parce que l'employeur lui-même était sensibilisé du fait qu'il avait un enfant épileptique. Donc, le mot-clé, c'est toujours adapter, aménager.
J'ai même envie de dire la sensibilisation, hein, vous en reparlez là, à ce moment-là.
Oui. Oui.
Hein, le fait de sensibiliser les employeurs, on en reparlera évidemment, et notamment avec toi Ségolène, hein, évidemment de comment sensibiliser les employeurs peut-être à mieux accepter cette idée qu'on puisse accueillir quelqu'un dans l'entreprise qui souffre d'une épilepsie ou d'ailleurs d'autres maladies. D'autres réactions sur ce micro-trottoir autour de la table?
Je peux
oui, Audrey,
prendre la
bien
parole
sûr.
En disant qu'effectivement, on s'est fait à peu près la même remarque avec Céline. On s'est dit, c'est fou, on n'a que des gens qui nous disent oui tout le temps. Et on sait que dans la réalité, ce n'est pas si simple. Une fois qu'on est réellement confronté à la recherche d'emploi, ce n'est pas toujours un oui qui peut-être est un peu polissé. ce qui est certain, c'est que ça soulève toute la question effectivement, de la sensibilisation. Et c'est tout l'objet, par exemple, de cette émission et de ce projet que de parler de l'épilepsie au grand public. Et puis ensuite, effectivement, de savoir accompagner les personnes dans la manière d'en parler, à qui en parler, comment en parler, pour éviter des refus, en fait, qui ne seraient sur des idées reçues, certainement.
Oui, il y a souvent, hein, on le constate, hein, dès qu'on traite des notions de handicap, de maladie, de trouble, il y a souvent beaucoup d'idées reçues qui créent des freins à l'emploi. Vous nous direz tout à l'heure, Marie, vous, comment ça s'est passé justement? Est-ce que c'était facile pour vous de trouver un emploi? Est-ce que c'était facile de le faire accepter à votre employeur actuel? Et si même vous en avez parlé, si vous le voulez bien, ce sera un des sujets qu'on abordera ensemble dans quelques instants. Vous vouliez réagir à ce qu'on a entendu, Marie? Ou non? Dites-moi, hein, soyez clair, n'hésitez pas. On réagira après, très bien. Justement, dans un instant, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on revienne un petit peu sur tout ce qu'on a entendu et qu'on voit ensemble les difficultés qu'on peut rencontrer à l'emploi et surtout qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Parce que c'est ça, hein, finalement, l'enjeu, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place et je pense que c'est pas le docteur Klein-Vogel qui me dira l'inverse. Comment on peut adapter les choses pour permettre aux personnes qui souffrent d'une épilepsie d'intégrer le milieu de l'entreprise. Et on verra d'ailleurs, je pense qu'on pourra en reparler avec toi, tout à l'heure Ségolène aussi, de l'enjeu d'intégration sociale hein, qu'a l'entreprise dans tout ça. Avant de continuer notre échange, je propose qu'on écoute une chanson d'un certain monsieur qui s'appelle Alain Souchon. Cette chanson s'appelle « J'ai 10 ans » et c'est vous Marie qui l'avez choisie. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette chanson?
En fait, c'est pour ma fille Inès que je l'ai choisie parce qu'elle aura 10 ans dans quelques jours.
Eh ben, on lui souhaite d'ores et déjà un très bel anniversaire et on écoute tout de suite Alain Souchon avec J'ai 10 ans sur RCN. Bienvenue dans Et puis c'est tout, l'émission qui traite des épilepsies jusqu'à 11h.
Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant. Je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars
rien à faire, je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans, les filles c'est les cloches, j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai des prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tarde ta gueule à la récré.
Heures, 11h sur RCN, et puis c'est tout.
Et aujourd'hui, nous parlons des épilepsies et du travail. Nous sommes en ligne avec le docteur Stéphanie Klein-Vogel. Vous êtes, je le rappelle, praticien hospitalier au service des pathologies professionnelles des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Docteur, j'avais envie de vous poser une question assez directe. Est-ce que quand on souffre d'épilepsie, on peut travailler?
Ah oui, tout à fait. La grande majorité, quand même... des épileptiques sont en plus bien stabilisés sur le plan du traitement et donc ça permet tout à fait l'accès à l'emploi. Et même les personnes qui ne sont pas stabilisées, c'est bien sûr plus complexe, mais on trouve également des solutions pour les maintenir dans l'emploi.
Alors, vous dites les personnes stabilisées, mais il y a aussi un peu cette notion, je le disais un peu tout à l'heure en début d'émission, mais il y a différentes formes d'épilepsie aussi qui existent. Il y a des épilepsies avec des crises plus ou moins sévères.
Oui, tout à fait. Vous avez les crises, celles que connaît souvent le grand public, les crises tonico-cloniques, hein, celles qui sont assez impressionnantes.
On va les expliquer pour que les auditeurs qui nous écoutent comprennent bien. Ce sont les crises où on va avoir des spasmes, où la personne va tomber au sol. Enfin, c'est des choses qui sont la crise la plus... Les yeux qui se révulsent un petit peu, ce genre de choses, hein, pour bien préciser.
C'est la plus connue du grand public, mais en fait, ce n'est pas forcément la plus fréquente.
Voilà, c'est ça.
Et vous avez aussi également des crises, par exemple, des crises d'absence, hein, où il y a juste une rupture de contact qui peut être très brève. Et la personne poursuit son activité une fois que la rupture est finie. Donc, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes, et notamment sur le plan du maintien dans l'emploi.
Et alors, ça pose du coup aussi cette question, est-ce que tous les emplois, est-ce que tous les boulots, est-ce que tous les postes sont praticables par des personnes qui souffrent d'épilepsie?
Alors non, parce qu'en France, on a une réglementation, et certains métiers sont interdits du fait de cette réglementation. C'est par exemple certains métiers de l'armée, certains métiers également des transports, transports aériens, transports ferroviaires, maritimes, voire des transports routiers. Alors ce sont des réglementations qui sont assez strictes, ce qui fait que certaines fois, pour nous, il n'y a pas forcément de contre-indication à occuper ce poste, mais la réglementation les en empêche.
Ah oui, vous, pour vous, il n'y a pas de contre-indication? Pas forcément.
Pas toujours. Certaines épilepsies, par exemple pour certains métiers de l'armée, pourraient être compatibles. Tout dépend le métier que l'on souhaite exercer. Sauf que dans l'entrée dans l'armée, on a ce qu'on appelle en fait un profil CIGICOP pour accéder au métier de l'armée. Et c'est là que souvent les patients épileptiques sont recalés.
Tout à l'heure, on entendait des gens qui disaient voilà, le travail sur échafaudage, sur des chantiers ou dans des grues, pour eux en tout cas, les gens qui étaient dans la rue disaient c'est pas praticable par des personnes qui souffrent d'épilepsie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
C'est faux, tout à fait. Ça, tout dépend effectivement de l'épilepsie, tout dépend du patient lui-même. Il y a une notion qui est très importante, c'est le comportement de la personne face au risque. Mmh. En effet, on peut très bien, en fonction du type de crise, du moment des crises, hein, certains épileptiques ne font que des crises nocturnes, par exemple, d'accord, on peut très bien laisser une personne travailler sur des échafaudages, travailler en hauteur, conduire, etc. Hein, c'est vraiment dépendant de multiples facteurs, et notamment de la maladie, du comportement de la personne et de le déni ou non des risques, l'entourage professionnel aussi est également très important.
Une question qui se pose très souvent quand on accède à l'emploi, c'est vrai pour les épilepsies, c'est vrai pour d'autres maladies chroniques, qu'elles soient physiques ou psychiques. Est-ce que vous, docteur, vous dites, quand on va passer un entretien d'embauche, est-ce qu'on doit prévenir l'employeur ?
Ah, ça, c'est une question très fréquente, hein, parce que les personnes la posent régulièrement en consultation. Mmh. Il faut savoir que déjà, légalement, il n'y a aucune obligation de le dire. Hein. Contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de personnes, c'est qu'il n'y a pas d'obligation légale. Mmh. C'est sûr que si la personne a une probabilité assez importante de faire des crises au travail, mieux vaut quand même le prévenir. Hein, parce que ça permettra ensuite plutôt la sensibilisation la sensibilisation face à la maladie, face à ces crises. Mmh. Donc à l'employeur, ça dépend un peu effectivement du risque de faire des crises sur les lieux de travail. En tout cas, aucune obligation, je le redis.
Oui, il n'y a pas d'obligation.
Moi, ce que je conseille surtout, c'est d'en informer le médecin du travail qui, lui, va être là pour aménager et pour accompagner la personne épileptique, notamment dans la sensibilisation face à l'employeur.
Le médecin du travail peut intervenir auprès de l'employeur justement pour dire voilà, j'ai un de vos salariés qui est venu me voir et qui souffre d'épilepsie, il faudrait mettre en place des choses pour le, notamment pour, et surtout pour le protéger.
Alors tout à fait, c'est un de ses rôles hein, au médecin du travail. Alors pas d'évoquer la maladie parce que le médecin du travail est soumis au secret
professionnel,
médical. Hein. Donc sans l'accord du patient, on ne peut pas donner la maladie. Mais si la personne épileptique est d'accord et souhaite que le médecin du travail ou son équipe, hein, l'équipe pluridisciplinaire, l'infirmier de santé au travail, intervienne sur les lieux du travail pour sensibiliser l'employeur, pour sensibiliser les collègues, pour expliquer que faire pendant une crise, c'est tout à fait dans le rôle du médecin du travail.
Mais alors, c'est assez compliqué finalement comme question, et là je m'adresse à vous tous, parce que si on n'est pas obligé de le dire à son employeur, et que c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs si on le dit, il y a malheureusement, je le pense, et dans les chiffres ça doit se vérifier, très peu de chances qu'on puisse accéder à l'emploi, et pour autant c'est quelque part se mettre aussi un petit peu en danger, parce que si on va dans une entreprise qu'on donne pas les consignes de sécurité, est-ce que c'est pas une mise en danger de la personne ? Docteur, peut-être.
Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est une mise en danger. C'est pour ça qu'en fait, le déni du risque, hein, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, est important. Et avec le médecin du travail, c'est une sorte de compromis ou un contrat de confiance. C'est que si la personne, justement, est honnête et... le rôle du médecin du travail, c'est vraiment d'essayer de maintenir le plus possible dans l'emploi. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas lui dire. Et effectivement, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des patients qui étaient tout à fait dans le déni du risque, notamment lorsque les crises épileptiques ne sont pas inaperçues pour lui. Ça peut arriver qu'il ne se rende pas compte qu'il fait des crises. Donc, c'est une sorte de déni également, quoi.
Vous, en tant que praticienne, vous conseillez vos patients de le dire ?
Alors, en général, je leur dis exactement ce que je vous ai dit.
Ouais, c'est ça.
Mais parce que, ensuite, notamment à l'embauche, ça va dépendre totalement de la personne que vous avez en face, de la sensibilité au handicap de la personne qui va être en face, donc sans connaître cette personne. Donc, en général, moi, pour l'embauche, je ne conseille pas forcément de le dire. Hein, sauf si vraiment les crises peuvent survenir de façon très très probable, mais voilà, tout dépend effectivement de la personne que vous avez en face de vous.
Mmh. Et il y a vraiment hein, ce point très important de sensibiliser aussi, là, je pense, les employeurs au fait que les crises d'épilepsie peuvent être d'abord différentes et elles sont gérables finalement dans une entreprise. Là, je m'adresse peut-être à l'ERHR, hein, notamment. C'est un peu votre métier aussi d'aller sensibiliser le public là-dessus.
Oui, alors effectivement, il nous arrive de faire des sensibilisations. Enfin, déjà, cette émission sert à sensibiliser le grand public. On réalise aussi des sensibilisations, pour le coup, pour favoriser aussi la connaissance des épilepsies dans le milieu du handicap, donc ce qu'on appelle le milieu protégé, qui concerne les établissements et services d'aide par le travail, les entreprises adaptées, où là aussi, il peut y avoir des représentations autour de l'épilepsie, autour des personnes épileptiques, et comment on peut les aider une fois une reconnaissance de qualité du travailleur handicapé, pouvoir accéder à l'emploi par ce biais-là.
Et alors, je reviens sur justement maintenant l'adaptation aussi du travail pour les personnes qui souffrent d'épilepsie. On a beaucoup entendu ça dans le micro-trottoir, on l'a déjà un petit peu évoqué. Et on a d'ailleurs entendu des gens qui disaient, et vous l'avez dit vous-même d'ailleurs docteur, que peut-être une des premières adaptations, c'est d'éviter le stress pour les personnes qui souffrent d'épilepsie. Vous pouvez me dire un mot là-dessus ?
Alors, ça va dépendre effectivement aussi du type d'épilepsie, mais il y a certaines formes d'épilepsie qui sont augmentées par le stress, hein, par la pression, par la cadence, et qui vont favoriser la survenue des crises. Donc, en effet, à ce moment-là, mieux vaut éviter les métiers stressants ou tenter de réduire le stress, hein, avec un entourage qui est assez tolérant. Ce sont des aménagements qui peuvent être, par exemple, des aménagements horaires aussi en fonction de périodes de stress. Je pense, par exemple, à une patiente épileptique qui travaillait dans un hôtel et qui, c'était plus difficile pour elle de gérer les départs du matin de l'hôtel, et ça engendrait beaucoup de stress et avec une augmentation de la fréquence des crises plutôt que le poste d'après-midi jusqu'à la nuit, où là, effectivement, la charge de travail, elle était plus lissée et c'était plus facile pour elle. Et effectivement, le changement d'horaire de travail a fait diminuer la fréquence des crises. Donc, c'est un élément à prendre en compte.
Donc, si demain, quelqu'un qui nous écoute là maintenant et qui potentiellement peut employer quelqu'un qui souffre de crise d'épilepsie, vous êtes en train de nous dire, en fait, on peut adapter aussi le poste de travail, on peut être accompagné dans l'adaptation du travail à la personne épileptique. Et comment ça se passe ?
C'est le rôle du médecin du travail.
C'est vraiment le médecin du travail.
Ah oui, tout à fait. C'est son rôle, c'est effectivement d'essayer de trouver des solutions avec le patient épileptique, avec l'employeur, pour aménager le poste au mieux, alors que ce soit des aménagements techniques, hein, par exemple pour le travail isolé, faire porter un dispositif qu'on dit DATI, dispositif d'aide aux travailleurs isolés, qui est un petit boîtier qui va sonner si la personne fait un malaise et qu'elle reste immobilisée au sol. Par exemple, c'est technique. Pour les machines dangereuses, il y a maintenant des systèmes de sécurité qui font que ça bloque totalement la machine si on enlève, par exemple, les mains du système de sécurité. Donc, il y a énormément de possibilités. Bien entendu, il faut que le patient épileptique lui-même adhère à ces possibilités et l'employeur.
Et après, il y a aussi toute la partie formation des personnes qui entourent la personne qui souffre de troubles d'épilepsie. On va parler un petit peu de l'expérience là, personnelle qu'on peut avoir, nous, avec Ségolène. Ségolène, quand tu es venue nous trouver, donc toi, tu es bénévole chez nous. Pour ce qui te concerne, l'accès au travail est très compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne trouves pas de travail.
Non, j'ai toujours pas réussi à obtenir un CDD ou CDI en milieu ordinaire à cause de mon épilepsie non stabilisée.
Et en milieu adapté ?
Et en milieu adapté non plus. Même en entreprise adaptée, en fait, j'ai pas réussi à aller au bout de ma période d'essai. Et l'entreprise, du coup, n'a pas renouvelé mon contrat suite à des crises sur place en entreprise adaptée. Donc,
Ségolène, pour toi, ça a été, je sais, un moment un peu d'isolement à ce moment-là aussi, social, mmh. parce que forcément, d'un seul coup, comme beaucoup de gens, travailler, c'est rencontrer du monde, c'est pas être tout seul. Mmh. Et du jour au lendemain, globalement, tu te rends compte que les portes se ferment.
Ah ben, oui, et je vis seule aussi. Mmh. Donc c'est vrai que le quotidien, j'ai eu une période un peu chaotique. Il m'a fallu du temps pour trouver une nouvelle, quelque chose de nouveau, quoi, qui pouvait s'ouvrir à moi. Parce que donc, j'avais déjà essayé les études à la fac avant. Donc là, je n'avais pas réussi à cause de mes troubles cognitifs. Après, j'ai essayé de passer des concours sociaux. Donc j'avais fait des formations professionnelles. Donc ça n'a pas. Je ne les ai pas validées non plus. Après, le milieu donc, adapté. Et donc là, le milieu adapté qui ne m'a pas accepté. Alors là, c'est sûr, je ne m'y attendais vraiment pas. C'est sûr que ça a été difficile. Donc, il m'a fallu un petit moment pour trouver quelque chose qui qui me corresponde.
Et puis, un jour, on s'est rencontrés. Et un jour, on s'est rencontrés quand on a travaillé justement sur ce projet d'émission. Et quand tu es venu nous voir, c'est vrai que la première chose que tu as faite et qu'on a faite ensemble, ça a été de se dire qu'est-ce qu'on fait en cas de survenue de crise. Oui. On a passé c'est pas un contrat tant qu'on a passé, mais c'est plutôt des consignes que tu nous as données.
Oui, je vous ai montré ma carte d'épileptique. Donc en fait, c'est une carte avec les actes à suivre en cas de crise, les noms des médecins, les traitements que je prends, les numéros d'urgence. Oui, ça vous a peut-être rassuré.
Ça nous a rassuré et ça nous a été utile une seule fois. Ça a été utile. Donc c'est dire qu'effectivement, ça a été une relation qu'on a mise de confiance entre nous finalement tout de suite. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple... Docteur Kleinvogel, qui est intéressante comme démarche aussi quand on arrive quelque part, de pouvoir dire voilà ce qui peut arriver, voilà ce qu'il faut faire.
Oui, je pense que c'est la première chose effectivement à expliquer afin de dédramatiser les crises. C'est vraiment, je pense, la première chose, oui.
Surtout, encore une fois, par exemple, pour ce qui te concerne, c'est quand même, tu souffres de crise quand même régulièrement. Oui. Et pour autant, chez nous, on en a eu une en plusieurs mois, même, j'ai envie de dire, et trois fois rien, finalement. Donc, c'est pour rassurer aussi les gens qui nous écoutent. Hein. Voilà, c'est des choses qui sont finalement tout à fait gérables. Et aujourd'hui, on a ça qui est affiché dans un coin d'un bureau où les personnels encadrantes savent qu'elles peuvent accéder si elles ont besoin à ce moment-là.
Oui.
Voilà. Et donc, là, on va revenir un petit peu maintenant sur ce parcours, Ségolène. Tu nous disais tout à l'heure, quand on était hors antenne, l'association, c'est super, mais il manque quand même cette reconnaissance officielle d'un contrat de travail, d'une fiche de paye.
Ben, c'est le bénévolat, c'est sûr, c'est pas un contrat de travail reconnu. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas le même statut. Donc, pour moi, bah, pour le moment, donc là, je suis bénévole depuis 3-4 ans environ maintenant. Oui, j'ai arrêté en 2021 de vouloir m'intégrer dans l'emploi parce que ça devenait, ça devenait compliqué. Et depuis 3 ans, je suis bénévole donc ici à RCN. J'y suis aussi à l'APF, à l'Association des paralysés de France. Mmh. Et c'est vrai que depuis ces dernières années, je me sens plutôt bien. Je trouve, avec les horaires adaptés, c'est sûr que c'est un peu plus facile quand je me sens mal. Je suis pas obligée tout de suite de prévenir pour un contraint de travail si je peux pas venir. C'est vrai que c'est il y a un peu moins de stress,
de pression peut-être.
Bon, je fais toujours des crises quand même. Les crises ne sont pas parties, malheureusement. J'en fais toujours plusieurs par mois, tous les 15 jours. Et c'est des crises tonico-cloniques. Donc moi, elles font peur, mes crises, en plus. Donc, ouais.
C'est dur, je trouve, ce qu'on entend, docteur, quand on l'entend dire. En 2021, j'ai décidé d'abandonner parce que même le milieu adapté ne m'a pas accepté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces situations-là ?
Oui, c'est dur à entendre, effectivement. Le milieu adapté, normalement, est fait justement pour accompagner, pour intégrer les personnes qui ont quand même de lourds problèmes de santé. Alors, ce qu'on peut faire, il y a toujours des possibilités. Notamment, nous, on reçoit en consultation des patients épileptiques, des consultations pluridisciplinaires, qu'on appelle épilepsie travail, qui existent un peu partout en France, et qui essayent, en faisant le point sur le point médical sur la maladie, le point sur le cursus professionnel, les compétences des personnes, les comorbidités aussi, c'est-à-dire les maladies qui accompagnent souvent l'épilepsie, qui sont importantes comme le syndrome dépressif, et en faisant le point sur le plan social, pour essayer de conseiller au mieux les personnes dans la réinsertion professionnelle et de les accompagner. Mais bien entendu, on ne réussit pas toujours.
Oui, il n'y a pas de baguette magique. Je voudrais bien qu'on redéfinisse simplement ce qu'est l'entreprise adaptée, le milieu adapté, si vous voulez bien. Audrey ou Céline, vous avez peut-être, pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément, ou Dr Klein-Vogel, vous pouvez redéfinir.
Dr Klein-Vogel sera plus expert, alors, docteur. Et dira peut-être moins de bêtises.
J'ai bien compris. Je les ai vus rougir d'un coup, je préfère que ce soit vous, docteur.
Alors, il y a différents types d'entreprises et de degrés d'adaptation. Ouais. Vous avez le milieu ordinaire. Vous avez ensuite, à l'inverse, les entreprises les plus adaptées, on va dire, ce sont les ESAT, établissements et services d'aide par le travail, où là, ce sont des personnes qui vont travailler en atelier, encadrées par des moniteurs, où vraiment les conditions sont très surveillées, très tolérantes. Il n'y a pas de contrat de travail d'ailleurs non plus. Les personnes perçoivent un petit salaire, mais si par exemple le matin elles n'arrivent pas à se lever pour venir travailler, il n'y a aucune conséquence à ça. Donc ça, c'est vraiment pour les handicaps très lourds. Et ensuite, il y a entre deux l'entreprise adaptée qui permet finalement, c'est une entreprise où on va commencer à retravailler et à adapter son environnement professionnel, mais c'est en vue de réintégrer un milieu ordinaire.
D'accord. Je vous entends parler de la souplesse sur les horaires, etc. Est-ce que le télétravail, c'est pas aussi quelque part déjà une petite solution qui peut aider, en tout cas en partie, à l'intégration ?
Tout à fait. Le télétravail est une mesure d'aménagement qui simplifie beaucoup certaines choses, notamment lorsque le patient épileptique a des problèmes de mobilité, qu'il n'a pas de permis de conduire. Ça ne règle pas forcément cette notion d'insertion sociale.
Oui, d'isolement social.
On est encore à distance.
Mais en revanche, peut-être la possibilité de se dire, tiens, aujourd'hui, je suis pas bien, je suis plus fatigué, j'ai fait une crise cette nuit, par exemple, et de se dire, plutôt que de devoir me débrouiller pour être quand même à 8 ou 9 heures au travail pour pas subir la pression de mon employeur, de pouvoir l'appeler, lui dire aujourd'hui, je télétravaille, par exemple.
Tout à fait. Moi personnellement, j'ai déjà prescrit ça à des agents que je voyais, et qui, alors pas pour une pathologie épileptique, mais pour d'autres pathologies chroniques, qui permettent effectivement, lorsque la personne se lève et a une poussée, par exemple, de rhumatisme, puisse rester à domicile, et ce, un ou deux jours par semaine, de façon à pouvoir éviter effectivement des absences sur un arrêt de travail, par exemple.
Oui, c'est ça qui peut être aussi des fois un frein un peu difficile à lever. Je vous propose qu'on poursuive nos échanges dans quelques instants. On va faire une brève pause musicale en écoutant le nouveau Beyoncé. On va partir un peu aux États-Unis, presque dans le désert, et on va ouvrir les portes du saloon. Et dans un instant, on va parler de quelqu'un qui travaille cette fois-ci, qui a un contrat de travail. C'est vous, Marie, vous allez nous raconter votre histoire.
Your keys up. too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado, ooh,
it's a tornado
in my city.
In my city.
In the basement.
The basement.
That ain't pretty.
Pretty.
Rugged whiskey.
Rugged whiskey.
We surviving.
We surviving.
A red cup kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh. One step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh.
Hoops, spurs, boots.
To the flow now, ooh.
Top, back, pulse.
Shoot.
Come take it to the flow now, ooh.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too.
Spurs, spurs, boots. Solagenic, photogenic, shoot.
RCM, et puis c'est tout, avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Et ce matin, nous parlons épilepsie au pluriel et travail. Marie, je vais me tourner vers vous maintenant parce que il y a quelques instants, on évoquait le parcours de Ségolène qui est à vos côtés. Ségolène pour qui l'insertion dans le travail par la voie professionnelle et non plus associative est quelque chose de, pour l'instant en tout cas, fermé. Et on espère qu'un jour, tu y arriveras. Si. On te le souhaite évidemment et on fait tout pour. Marie, vous êtes aujourd'hui salariée.
Oui. Ça fait 3 ans maintenant que je suis chez Habitat Humanisme Lorraine. Mmh. Et j'ai commencé à y être par la porte du bénévolat, en fait. J'ai
D'accord.
commencé chez eux en étant bénévole. Et ensuite, comme ils cherchaient, comme la fille qui occupait le poste que j'occupe actuellement est partie. J'en ai profité pour porter la candidature.
Vous lui avez piqué la place, bravo, c'est une belle action. Vous avez bien fait, si la place se libère, faut la prendre.
Exactement.
Aujourd'hui, du coup, dans ce poste et dans cette structure, oui.
Parce que j'y allais, comme à l'époque, elle ne travaillait pas le vendredi, j'allais pour la. On plaçait pour certaines tâches le vendredi, certains vendredis. Du coup, ils me connaissaient déjà un peu ma personnalité, un peu comment je travaillais. Et du coup, ils ont pu prendre ma candidature un peu au sérieux, quoi.
Ils savaient à ce moment-là que vous souffriez d'épilepsie ?
Une des personnes, oui. Mmh. Et les autres, non.
Les autres, non, d'accord. Oui.
Et donc après, cette personne-là m'a dit « ce serait quand même bien d'en informer vos collègues parce que l'épilepsie n'est quand même pas un handicap comme les autres. L'épilepsie est un handicap qui fait peur. »
Oui.
Alors bon...
Oui, il y a vraiment cette notion de peur, on le retrouve souvent.
Oui. Mmh. Donc bon, j'ai dit d'accord, parce que bon, moi je sais que de l'intérieur, moi je m'en rends pas bien compte, forcément, mais je sais que à chaque fois qu'il y a eu des gens autour de moi, m'ont tous décrit, ceux qui m'ont décrit des choses assez... science-fiction, si on veut.
Marie, vous ne savez pas, du coup, de quelle crise vous souffrez. Enfin, c'est-à-dire, les crises que vous faites, vous ne savez pas à quoi elles ressemblent aujourd'hui.
C'est des crises tonico-cloniques.
Ah voilà, vous êtes quand même sur des crises tonico-cloniques. Oui. Ouais. Donc avec les spasmes, avec la chute, avec voilà, les yeux qui révulsent, etc.
Oui, et qui passent par toutes les couleurs. Et
d'accord,
oui,
c'est ça.
Et il y a eu une fois où les pompiers m'ont récupéré comme ça et n'ont pas cru que j'étais épileptique et ont cru qu'ils récupéraient une alcoolique. Donc, c'est pas très agréable, voilà. Mais sinon, les autres fois, ça s'est bien passé. Enfin, là, c'était pas dans le cadre du travail, mais sinon, dans le cadre du travail, si, ça se passe toujours correctement, puisque les collègues ont été informés tout de suite, et bon, ils l'ont bien pris. Et ils m'ont posé plein de questions, savoir comment il fallait faire, et comment... Hein, donc... c'était plutôt positif. Et ils ont voulu savoir aussi comment s'adapter. Hein. Et du coup, on a acheté un transat.
Mais vous avez de la chance.
pour ne pas... Parce que ma responsable m'a dit, bah, quand même, quand elle fait des crises, c'est pas toujours propre par terre. Alors,
c'est simple. Mais c'est intéressant ce que vous dites, je trouve. Ça veut dire que l'adaptabilité, Dr. Kleinvogel, on la retrouve y compris là. C'est-à-dire que c'est une bonne idée, je trouve, l'idée du transat. Vous en pensez quoi?
Oui, tout à fait. On peut également aussi proposer des zones de repos pour... parce que l'épilepsie, c'est une chose, mais les conséquences du traitement aussi, et la fatigue notamment, c'est également un frein pour le maintien dans l'emploi. Et donc, il peut y avoir des zones de repos au calme pour les personnes épileptiques. Et on voit bien là, dans le discours de cette dame, que quelque chose qui fait peur, une fois qu'on y est préparé, ben, il fait moins peur. Et donc, c'est tout l'enjeu, la sensibilisation de l'entourage professionnel.
Vous travaillez, Marie, vous faites l'accueil physique et téléphonique.
Oui.
D'abord, est-ce que vous aimez votre métier et comment vous vous sentez aujourd'hui dans cet emploi?
Je me sens bien, j'aime beaucoup mon métier, oui. Ça, c'est un métier, j'aime beaucoup les métiers de communication, comme ça. Et puis, les gens que j'accueille... me le rendent bien. Et donc, voilà, non, c'est j'adore mon métier.
Vous aimez votre métier et donc aujourd'hui, vous y êtes tout à fait heureuse et bien. Mm-hmm. Et vous nous avez dit, il m'est arrivé une fois, une seule fois, de subir une crise au moment où je travaillais.
Au moment où... Enfin, pendant que je travaillais, m'est déjà arrivé plusieurs fois.
D'accord.
Mais pendant que j'étais... au téléphone, en train de répondre au téléphone. Et ça, c'est plus compliqué à gérer parce que là, je suis toute seule face à quelqu'un qui ne me voit pas, donc qui ne voit pas que je ne vais pas bien, qui ne peut pas, si tout d'un coup, il est en train de me poser une question ou quoi que ce soit, puis qu'il attend une réponse, eh bien... peut attendre
un petit moment, le temps que vous vous releviez, que vous vous reposiez un peu aussi, parce que je sais que c'est fatigant.
Et puis que je me redise, mais qu'est-ce que j'étais en train de dire?
Qu'est-ce qu'il était
en train de me dire? Et puis voilà quoi. Alors, tandis que quand c'est quelqu'un en face à face, en vis-à-vis, c'est plus facile.
C'est plus simple.
Dire, la dame, elle va pas bien, quoi. Mais tandis que là, y a rien du tout.
Je voudrais revenir sur une chose importante. Vous avez parlé tout à l'heure de la fois où les pompiers sont venus vous chercher, vous ont pris pour quelqu'un qui était alcoolisé.
Mais là, c'était dans la rue, donc c'était pareil. Mais
ça, c'est aussi quand même la question toujours aussi de l'information, y compris des collègues. Je sais que Ségolène, tu y tiens beaucoup, de dire si je fais une crise et si la crise n'est pas trop longue. On peut-être dire un mot sur les crises, c'est-à-dire qu'une la survenue d'une crise, si elle est courte, si elle est de courte durée, elle n'est pas grave, elle n'est pas dangereuse pour la personne. Ce qu'il faut finalement, c'est savoir combien de temps elle dure. Docteur Kleinvogel, c'est ça qu'il faut faire le réflexe quand quand on accompagne un salarié qui souffre d'épilepsie?
Oui, tout à fait. La première chose, c'est effectivement de voir l'heure. Et sur une crise qui dure plus de 5 minutes, en effet, là, on peut décemment appeler les urgences, mais en deçà de 5 minutes, effectivement, ou des crises très courtes, il n'y a pas forcément la nécessité de transporter vers le service voilà. d'urgence.
Voilà, c'est ça. On peut gérer, effectivement, laisser la personne revenir à elle, reprendre ses esprits et puis voilà, et puis se reposer aussi. Bon, je crois que c'est assez fatigant, hein, ces crises-là aussi. Hein.
Oui.
Donc, il y a un temps de repos qui est utile. Une autre question, une autre remarque. Là, je repense à notre histoire avec Ségolène. Ségolène, toi, tu fais des crises de façon assez régulière dans la vie quotidienne. Et pour autant, chez nous, on en a eu une seule. Et là, c'est une question que je vous pose à vous deux, mais aussi à vous, docteur Klein-Vogel. Est-ce que le fait de travailler peut, par la concentration qu'on met dans son travail, diminuer les crises ou l'intensité des crises?
Alors, je ne sais pas si c'est par la concentration, mais je pense que ça passe surtout aussi par le bien-être, hein, le bien-être social. Et en effet, quelqu'un qui travaille va être en meilleure santé que quelqu'un qui ne travaille pas et qui n'a pas de contacts sociaux. Donc, on le voit effectivement que les crises ne sont pas forcément très fréquentes au travail, parce que la personne est peut-être aussi mieux dans sa vie.
En tout cas, ce qu'on note là, moi ce que j'entends et depuis le début de cette émission, et malheureusement on arrive déjà à son terme, c'est qu'en tous les cas, on peut souffrir d'épilepsie et travailler, on le voit avec vous Marie. On peut, si on est bien accompagné, si on a bien formé finalement les personnes qui nous accompagnent, le vivre tout à fait bien, et pour l'employeur, c'est tout à fait bénéfique aussi de pouvoir recruter des gens qui souffrent d'épilepsie, mais qui pourraient souffrir d'autres maladies chroniques ou physiques ou psychiques. Si on résumait, on pourrait le résumer comme ça.
Tout à fait.
Je vous propose, peut-être que, et avant de passer aux ressources un petit peu qui existent, et puis de conclure cette émission, un petit questionnaire vrai-faux très rapide. D'accord, je vais vous poser quelques questions. Ne vous offusquez pas, je vais mettre les pieds dans le plat très probablement. Mais voilà, l'idée c'est qu'effectivement, on rebalance quelques vérités ou contre-vérités. Les employeurs sont tenus de fournir des adaptations raisonnables pour les employés atteints d'épilepsie. Vrai ou faux?
C'est qui doit répondre?
Allez-y, docteur. Allez-y, je pense que vous êtes pas mal pour répondre à cette question.
Ceux qui ont les meilleures réponses.
C'est vrai.
Bah oui.
Les personnes épileptiques ne peuvent pas travailler à des postes de responsabilité élevés.
C'est faux.
On est d'accord. Les employeurs sont tenus d'informer les collègues de travail de la condition d'épileptique d'un employé.
C'est tout à fait faux.
C'est faux également. Avec une épilepsie, on peut exercer tous les emplois.
Ben non.
C'est faux.
On l'a vu aussi tout à l'heure. Il y aura quelques vrais, je vous le promets. Les personnes épileptiques sont souvent stigmatisées sur le lieu de travail.
Oui. Malheureusement, vrai.
Et oui. Même si on le voit, Marie, a priori, vous par exemple, vous avez réussi à passer au-delà.
Oui. Hein,
voilà. Les employeurs ont le droit de licencier une personne à cause de l'épilepsie.
C'est tout à fait faux.
Absolument faux. Et ce serait même tout à fait illégal.
Tout à fait illégal.
Eh bien oui, clairement. Et là, ce serait les prud'hommes directement. Il est obligatoire de parler de son épilepsie lors d'un entretien d'embauche.
C'est faux, je l'ai déjà dit.
On l'a déjà dit.
C'était pour réviser
à la fin de cette émission pour ceux qui n'auraient pas pu suivre la totalité. Je vous remercie beaucoup, Dr Klein-Vogel, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes praticien hospitalier au service de pathologie professionnelle des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et merci pour votre éclairage durant cette émission. Et j'invite les gens qui n'auraient pas pu suivre toute l'émission à réécouter le podcast, bien entendu. Merci, Ségolène, d'être venue témoigner dans notre émission. Encore une fois, on est très heureux de t'avoir parmi nous. Merci. Et surtout, on souhaite que ton passage parmi nous te permettent aussi de retrouver une insertion, une inclusion par le travail aussi.
J'espère, moi aussi.
Voilà, et on est à tes côtés, évidemment, et tu le sais. Merci à vous, Marie, d'être venue aussi nous témoigner de votre parcours très positif et qui prouve qu'on peut souffrir de l'épilepsie et travailler dans une entreprise et que ça se passe parfaitement bien.
Et oui, merci à vous.
Merci beaucoup. Audrey, Céline, pour finir cette émission, quelques ressources qu'on peut aller piocher comme ça de droite de gauche sur Internet, par exemple.
Un petit point ressources, oui. Alors, peut-être dans un premier temps, enfin, elles sont toutes très intéressantes. Il y a une nouvelle fiche produite par la Ligue française contre l'épilepsie, la LFCE, une fiche info patient, relation entre travail et épilepsie. Et puis également, la Société française de santé au travail a produit un guide épilepsie et travail, recommandations sur la conduite à tenir dans le cadre d'une décision concernant l'adéquation entre l'état de santé et le poste de travail. Et puis, peut-être aussi, c'est vrai qu'on en a peut-être un peu moins parlé là aujourd'hui, pour guider les personnes dans le parcours qui peut être un peu le parcours du combattant, dans qu'est-ce qu'on demande. On parlait tout à l'heure de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, comment on fait, quelle démarche administrative. L'association Épi-Bretagne a également développé un guide épilepsie et travail qui est accessible en ligne. Et puis je laisse Audrey nous parler peut-être des ressources plus locales vers lesquelles vous pouvez vous tourner.
Allez, Audrey, on vous écoute, on t'écoute.
Oui, on peut se tutoyer.
Oui, on se tutoie dans la vie, donc on va se tutoyer à l'antenne.
Docteur Klein-Logène en a parlé pour ce qui concerne le CHUT de Strasbourg. Et effectivement, on le retrouve aussi au CHUT de Nancy, les consultations épilepsie et travail, qui sont d'excellentes ressources. Elle en a clairement parlé tout à l'heure. Et puis, pour faire le point, justement, sur sa situation et bien individualiser les choses, je crois que c'était aussi un des deux messages à faire passer, c'est qu'il n'y a pas une réponse toute faite.
De la même manière qu'il n'y a pas une épilepsie.
Il n'y a pas une épilepsie, il y a du coup tout un tas de parcours professionnels et du coup de besoins d'adaptation. Et c'est un bon endroit pour faire le point. Et puis évidemment, les services Cap Emploi qui accompagnent l'accès vers l'emploi. Tout un tas de services. On a le SAMET qui est un service d'appui au maintien à l'emploi. Les dispositifs de l'AGFIP, notamment l'AGFIP Grand Est pour qui concerne notre région, mais on les retrouve partout en France. Et il existe aussi une unité d'évaluation et de réentraînement et d'orientation sociale et professionnelle, qu'on appelle en raccourci l'UEROS, qui intervient aussi auprès des personnes pour faire le point sur leurs besoins en adaptation professionnelle.
Il existe énormément de dispositifs. On vous remettra toutes les références dans les liens de cette vidéo aussi que vous pouvez suivre sur notre chaîne YouTube RCN. Je rappelle que l'émission Et puis c'est tout, qui va prendre fin pour aujourd'hui, revient dans un mois. On aura comme thématique le mois prochain
Les aidants.
Encore une émission qui sera passionnante. Si vous souhaitez témoigner, une adresse mail qui existe. Alors pour les aidants, je crois qu'on a déjà des témoignages. Mais pour les prochaines émissions, on vous recommuniquera cette adresse mail également. Il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes pour la participation à cette émission et vous tous qui nous avez écoutés. On espère que vous aurez appris beaucoup de choses. On vous souhaite une très belle journée sur RCN.
Et le Purple Day.
Le Purple Day. Merci Céline, bien sûr. J'oubliais le Purple Day, bien sûr. C'est le 26 mars, c'est avant la prochaine émission. C'est notamment pour nous à Nancy, dans les grands salons de l'Hôtel de Ville. Voilà. Venez nombreux, il y aura des débats, des échanges, des discussions, stands, plein de choses à apprendre et à découvrir autour de l'épilepsie le 26 mars. Et merci de la confiance que vous faites. J'aurai le plaisir de pouvoir participer à cette journée à vos côtés. Et j'en suis très heureux. Je vous souhaite à tous une belle journée. À très bientôt sur RCN pour un prochain numéro d'Épices et tout.